Bonjour à tous. Je ne vous dis pas comme c'est agréable de reprendre le message après un moment où il y a ces chants qui font écho quand même à des choses que l'on vit, que l'on conçoit, que l'on touche du doigt de façon concrète chaque jour. Et surtout quand on lit la parole de Dieu aussi, de voir que cette bonté de l'Éternel, il suffit d'ouvrir et la bonté de l'Éternel est dans la parole. Et elle nous accompagne, cette parole. Et c'est chouette de vivre ces moments aussi avec vous, ensemble, de pouvoir partager cela et franchement d'ouvrir aussi cette parole parce qu'elle a des choses à nous dire. Elle veut encore plus qu'on rentre encore plus que ce qu'on est peut-être, on est déjà rentré dans cette bonté, qu'on rentre encore plus dans ces promesses, dans cette vie abondante qui est vraiment là devant nous. Et ce que je vous propose ce matin, c'est de méditer un passage de l'Apocalypse qui évoque une situation que nous retrouvons à la fois dès le début de l'humanité, et on voit justement dans l'Apocalypse la façon dont elle a évolué tout au long de l'histoire biblique, et donc aussi forcément tout au long de l'histoire humaine. Il s'agit de la confrontation systématique entre la femme et le diable, et cette haine croissante qu'il y a eu au fil des siècles entre eux. Alors je voudrais commencer par lire ce texte de l'Apocalypse, mais avant je voudrais rappeler aussi dans quel contexte Jean nous retransmet au moyen de ce qu'il a écrit, il nous retransmet ce qu'il a vu lorsqu'il était en esprit sur l'île de Patmos. Alors il était probablement le dernier survivant des apôtres, il était retenu sur cette île, et ce qu'il discerne et voit même tout au long de ces récits de l'Apocalypse, c'est toute la réalité spirituelle du monde invisible. Alors nous sommes quelquefois tellement abusés par le monde visible et matériel que nous côtoyons, dans lequel forcément on vit, on est bien vivant, que nous pouvons être incrédules et finalement rester aussi ignorants sur tout ce qui se passe dans le monde invisible. Et forcément, ce monde invisible, il est spirituel. Et justement, l'apôtre Jean nous apporte par ce livre une révélation des réalités de ce monde avec toute leur beauté et aussi toutes leurs horreurs. Et nous avons avec tous les moyens aussi audiovisuels à notre disposition, avec la qualité aussi des effets spéciaux dans les films, on a acquis une habitude à la vue de ces films avec ces scènes plutôt de plus en plus fantastiques. On a pris cette habitude, mais c'est sans aucune mesure avec ce que Jean a pu vivre. Il fut saisi par le Saint-Esprit, puis il a été transporté au-delà de son époque pour relater des événements qui précéderont le retour de Christ et la fin des temps. Alors avant Jean, il y a eu d'autres hommes de Dieu qui ont expérimenté cela. Il y a Ézéchiel qui fut saisi par l'Esprit à Babylone. Il a été transporté dans le temple de Jérusalem, de Babylone, pour y découvrir vraiment toute cette idolâtrie qui était forte. Et ce même esprit le ramena ensuite à nouveau à Jérusalem pour lui montrer quel sera le nouveau temple. Le même esprit aussi montre à Pierre, il le ravit en extase, et puis lui dévoile une nappe dans laquelle se trouvaient tous les animaux de la terre. Et par ce moyen, Dieu lui a fait comprendre qu'ils étaient non plus impurs, mais qu'ils étaient purs. Paul aussi fut ravi jusqu'au troisième ciel. Il lui fut même donné, lui, d'entendre des choses trop merveilleuses qu'il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Et nous savons quelle connaissance Paul avait des mystères de la foi. Alors nous constatons vraiment qu'à ces moments particuliers, le Saint-Esprit a levé le voile sur des mystères pour les révéler à ses enfants, pour les faire grandir aussi dans sa connaissance. Et on est bien sûr dans ce cas, nous, quand nous lisons la parole de Dieu, nous la méditons, quand on peut être aussi transporté par la louange, transporté par des moments de communion particuliers, recevoir une révélation, quelque chose de nouveau du message de l'Évangile. Alors dans sa grâce, nous avons des textes comme les évangiles ou les épîtres qui nous donnent beaucoup d'explications et qui nous aident à comprendre. Mais on a besoin surtout toujours du Saint-Esprit et de persévérer dans notre communion fraternelle pour que nous réalisions vraiment spirituellement aussi la portée de cette parole. Dans le cas de l'Apocalypse, Jean ne nous donne pas d'explication. Néanmoins, il laisse une bénédiction à celui qui entend et qui lit la parole de la prophétie. Alors, on se rend compte vraiment rapidement, quand on lit, commence à lire l'Apocalypse, que sa lecture et sa compréhension ne sont pas faciles. Évidemment, on se heurte à un style de récit qui est fantastique, dont on n'a pas forcément l'habitude ou même l'envie de méditer. D'autant plus qu'il y a un avertissement à l'intention de ceux qui retrancheraient ou ajouteraient quelque chose à cette parole de la prophétie. Mais au-delà de ça, il y a surtout une bénédiction de rentrer par ces récits dans la réalité spirituelle et de découvrir l'envers des décors et de voir justement, comme on a pu le chanter, les efforts, la bonté que Dieu fait pour venir en aide au travers du temps à tous ceux qui se réclament de lui. Alors je vous propose de lire intégralement le chapitre 12 de l'Apocalypse et qui se trouve au centre de la révélation. Après avoir mentionné dans les chapitres 2 et 3 le déclin des sept églises dans lesquelles l'apôtre Jean avait l'habitude de se déplacer, donc ça, cette église était dans les alentours d'Éphèse et il œuvrait dans cette région, Jean, mais l'Apocalypse nous apporte une contribution importante sur tout ce qui touche les événements qui doivent arriver ensuite. Et justement, le chapitre 12 s'arrête pour revenir sur cet harcèlement constant du diable envers la femme, avec en toile de fond toujours la vigilance de l'Éternel. Donc je vous propose la lecture. Un grand signe apparut dans le ciel. C'était une femme enveloppée du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel. C'était un grand dragon rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Et elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts. Il n'y eut pas de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé ». Ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivait la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle, mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Alors le serpent vomit de sa gueule, comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme, elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent les témoignages de Jésus. Et je me tins sur le sable de la mer. Voilà, c'est un récit très dense. Je ne sais pas, ça part dans tous les sens. Et nous ressentons, quand nous lisons ces textes, que Jean, finalement, il ne savait plus où donner la tête. Il ne savait plus que regarder. Il y a un signe là, puis il y a un autre là. Et d'un coup, il y a la queue du dragon, puis des anges qui mènent une bataille, enfin, etc. Alors, je ne vais pas prendre en détail chaque vision que Jean nous relate, mais chercher leur interprétation. Il y a des auteurs qui ont fait des livres à ce sujet, mais ce que je chercherai peut-être plutôt, c'est voir cette situation dans son ensemble. Et avec les principaux acteurs, donc, qui sont la femme, le dragon, Michel et ses anges, et avec en arrière-plan toujours Christ et son œuvre victorieuse de la croix. Et ce récit commence par l'apparition de deux signes dans le ciel, celui d'une femme enveloppée du soleil et celui du dragon rouge feu. Alors, ces deux signes sont donnés dans le ciel et non pas sur la terre, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au domaine spirituel et non pas au domaine matériel. Bien sûr, ça n'exclut pas qu'il y ait des conséquences physiques à cette confrontation, et nous savons qu'il y en a. Mais cela signifie que cette opposition est de l'ordre du spirituel. Et s'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'identité du dragon, puisqu'au verset 9, le grand dragon est appelé le diable, il n'y a pas non plus sur l'archange Michel, puisqu'il est clairement nommé. En revanche, on peut s'interroger sur l'identité de la femme. Et je vous propose donc de prendre un temps pour voir qui représente cette femme et de découvrir l'origine de cette inimitié entre le serpent et la femme et l'importance que cela a eue dans le plan de Dieu. Alors il faut faire un énorme bond en arrière pour voir l'origine de cette opposition, puisque c'est une conséquence directe de la chute. Lorsque Dieu dit en Genèse 3, verset 14, « L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc c'est donc le point de départ de cette situation et que nous continuons de subir des siècles après. Si le serpent doit désormais ramper, la femme doit accoucher dans la douleur, l'homme travailler à la sueur de son front, c'est qu'ils ont dû finalement subir des conséquences physiques de ce péché originel. Et outre ces conséquences physiques, il y a des conséquences spirituelles et entre autres cette inimitié entre le diable et la femme. Et je remarque au passage que cette promesse d'inimitié est adressée au diable et qu'elle est désormais volonté de Dieu. Et donc si la postérité de la femme est relativement perméable ou tolérante aux avancées du diable, il n'y a plus d'inimitié et forcément cela ne cadre plus avec le plan de Dieu. Si cette inimitié n'a plus raison d'être, alors le diable la laissera tranquille. Et même, il pourra la mettre dans des conditions de vie favorables au péché. Dans cette situation, la vie dans ce monde devient beaucoup plus confortable pour elle que si elle restait dans le plan de Dieu. Non, le plan de Dieu pour le diable est que la postérité d'Ève lui portera un coup fatal. Et en revanche, cela ne se fera pas sans souffrance. C'est le sens donné par le talon blessé. Au sujet de la postérité d'Ève, il est intéressant de voir de qui elle se compose. Et c'est ce qu'on peut voir un peu plus loin dans le chapitre 4 et 5 de la Genèse, où dans ces chapitres, on voit en détail la postérité de Caïn. Je n'ai pas vu le film Noé, mais ils en parlent. Et cette postérité de Caïn avait des facultés qu'ils ont développé pour jouer de la musique ou se forger des instruments de fer ou d'airain. Et puis en parallèle de cette postérité, il y a la nouvelle postérité de la femme à la place d'Abel, celle de Seth. Et il y a un verset particulier, le verset 26 du chapitre 4, qui nous dit « Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. » Donc à partir de là, apparaît dans la parole de Dieu deux postérités. Celle de Caïn, donc qui s'installe dans le divertissement et la violence, et celle de Seth, par qui on commence à invoquer le nom de l'Éternel. À partir de là, c'est une nouvelle postérité, et c'est celle de la femme, qui va trouver grâce aux yeux de l'Éternel, et qui, bien entendu, tout au long des siècles, va être la cible de l'ennemi. Et ce texte de l'Apocalypse relate justement les circonstances difficiles dans lesquelles le Fils de Dieu est accueilli. Juste, fais suivre le verset 2 qu'on a déjà lu, donc d'Apocalypse. Je ne vais pas le lire, mais lisez-le en temps perdu. À cette période, donc Israël, qui représente la postérité de la femme et qui est censé invoquer le nom de l'Éternel, est dans une situation désastreuse. Satan sait très bien que c'est par cette descendance que le Messie sera envoyé, et il sait très bien que c'est lui qui lui portera le coup fatal. Dans toute sa férocité, le diable met toute son énergie de destruction pour éviter que le Messie puisse naître. Et malgré sa naissance, il va même jusqu'à inspirer Hérode pour qu'il commette le crime le plus odieux en tuant tous les premiers-nés à Bethléem. Sans les avertissements en songe, ces avertissements divins, les songes qu'ont eu les mages, puis Joseph, que serait devenu le Messie? Mais la volonté de notre Dieu souverain était tout d'autre. C'était le Fils. C'est le Fils qui doit paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Ensuite, au verset 7, il y a ce grand combat entre Satan et Michel et les anges. Et à l'issue de ce combat, le diable et ses anges sont précipités sur la terre. Alors, on ne sait pas combien de temps a duré ce combat, mais il semble quand même que la présence du Messie sur la terre a été l'élément déclencheur de ce combat. Et même Jésus a été témoin de cette chute de Satan. Lorsqu'il était avec les 70 disciples, qui étaient surpris de voir les démons leur être soumis en son nom, en Luc, c'est le verset 18 de Luc 10 qui dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». La victoire définitive a été parachevée à la croix, où le Seigneur, ça c'est ce qu'on lit en Colossiens 2, verset 15, a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Puis si on continue ce texte d'Apocalypse, ben forcément, une voix peut s'élever dans le ciel, verset 10, pour proclamer la puissance et le règne de notre Dieu. Désormais, les audiences que le diable avait auprès de Dieu pour accuser ceux qui invoquent le nom de l'Éternel, comme on le perçoit et on est témoin de ça au début de l'histoire de Job, cette possibilité-là lui est interdite. Visiblement, le trouble constant que Satan amenait dans le ciel était tellement lourd à supporter pour tous les anges que cette victoire dans le ciel est une vraie délivrance. Et donc c'est la joie pour tous ceux qui habitent dans le ciel. En revanche, Satan, voyant sa zone d'influence réduite à la terre, réalise qu'il lui reste peu de temps. Il focalise donc toute sa puissance destructrice sur tous ceux qui ont la foi et qui invoquent le nom de l'Éternel d'un cœur pur. Ainsi, Satan sait très bien que la foi des enfants de Dieu est un obstacle majeur à l'établissement de son programme. Jean, dans sa première épître, encore lui, nous dit que la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Et Paul décrit aux chrétiens de Thessalonique comment l'Antéchrist est retenu tant que le Saint-Esprit est présent dans l'Église. Malgré les circonstances difficiles que beaucoup de chrétiens vivent, ou que nous sommes ou nous serons encore amenés à vivre, la foi en notre Dieu souverain et tout-puissant est le seul bouclier efficace pour nous protéger du diable, freiner son action. Et je cite encore un avertissement que Paul a fait à Timothée. 1 Timothée 4, verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On a une assurance solide en Christ. Pourquoi, dit-on, pourquoi abandonner la foi ? dans ce harcèlement constant que le diable fait subir à la famille des croyants, l'Éternel n'est pas à court de ressources pour venir les éloigner de la face du serpent. Mais le diable ne renonce pas facilement, car même s'il est éloigné et on pense être en sécurité, voici que dans le récit qu'on a lu, il lance encore de l'eau pour nous submerger, pour nous déraciner. Et là encore, c'est Dieu qui intervient pour rendre inefficace toute cette débauche d'énergie. Comme cette terre qui est le secours de la femme, dans le texte qu'on a lu, Christ, notre rocher, notre forteresse, et il est notre secours quand nous sommes dans la détresse. Donc d'où l'importance d'être construit sur le roc, d'avoir notre foi ancrée en Christ, notre rocher. Si la foi n'est pas là, si nous ne jugeons pas nécessaire de nous arrimer au rocher, ben l'eau peut venir nous submerger, et alors il ne reste plus qu'à nous attacher, s'il n'y a plus de rocher, ben aux esprits séducteurs, aux doctrines de démons, et nous laisser dériver par les courants de ce monde. Alors, nous pensons peut-être être protégés, plus protégés ici que dans les pays où la persécution opère. Évidemment, on ne craint pas la mort, on ne craint pas la souffrance physique, mais la stratégie de l'ennemi est qu'il veut nous submerger avec tous les bruits, les images, les lumières, les sens, pour nous décramponner spirituellement de tout ce qui nous lie à Christ. Inlassablement, ici ou ailleurs, les chrétiens sont la cible de l'ennemi de Christ. Car tant que nous sommes là, Dieu intervient. Et cela a une seule conséquence, c'est qu'on fait inlassablement, on contrecarre les plans aussi de Satan. Et il s'acharne. Et ce passage d'Apocalypse nous révèle aussi de façon criante à quel niveau se situe ce combat. Il nous dévoile quels sont les enjeux spirituels dont nous sommes l'objet. Alors, on trouve des fois plus facilement de combattre des idées. Rappelons-nous que notre combat est spirituel. Il est contre les principautés, les autorités spirituelles. Remarquez bien, tout au long de ce texte, quelle a été l'attitude de la femme. Elle n'a pas pris les armes pour se faire justice. Elle restait dans la confiance dans son Dieu, conscient que la victoire était par avance acquise par le sang de l'agneau. Bien souvent, à notre échelle, nous avons l'impression que les situations sont bloquées. Dans nos vies, c'est bloqué. Et on aimerait prendre les choses en main pour que les choses bougent plus vite. Non, en dehors du temps, il n'y a qu'une attitude valable, c'est la foi. Ainsi, savoir manier ce bouclier nous permettra d'éteindre les traits enflammés du méchant. Cette foi en ses promesses, car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La foi, tout simplement, c'est ce que veut retrouver sur la terre le Seigneur quand il reviendra. Jeudi, c'est l'ascension. Il est parti, il va revenir comme il est parti. Cette question, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est ce que le Seigneur veut retrouver. Quand il va venir, il cherchera la foi. Et il faut qu'il la trouve chez nous. Cette foi, c'est vraiment ce que ce passage de l'Apocalypse nous révèle. Restons ancrés sur le rocher. Peut-être qu'on ne sent pas forcément les courants de ce monde, avec ces esprits séducteurs et ces doctrines de démons qui cherchent à nous éloigner de cette place. C'est pourtant inlassablement ce que le diable essaye de faire avec nous, les témoins de Jésus qui portons en nous les signes de la victoire de Christ. Un dernier verset que je vous laisse, 1 Pierre 5, verset 9 dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alors comment résister avec une foi ferme? C'est simple, en persévérant comme le faisaient les premiers chrétiens, dans l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. Oui, c'est beaucoup, c'est peut-être quatre. Mais ces quatre piliers sont les piliers de la vie chrétienne. Et ce sont de bons indicateurs dans nos vies pour nous situer au niveau de notre attachement à Christ. Si pour quelque soi-disant bonne raison, on est défaillant sur l'un de ces points, c'est un signe que nous sommes pris dans un courant de ce monde qui est mal inspiré. Mais il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière et reconsidérer ses priorités pour nous attacher à Christ. Ouais, il y a l'enseignement, on aime être bien enseigné. La communion fraternelle, on aime bien avoir des moments de louange, des moments de sport à l'extérieur, des moments où on peut partager et prouver des choses ensemble. Il y a la fraction du pain. Moi, j'ai trouvé chouette ce matin. On était là avant la fraction du pain. Et cette fraction du pain nous a rejoints. Cette fraction du pain, c'est un signe aussi de cette unité, de ce moment de communion fort que l'on a en nous. Cette famille de Christ qui est imaginée dans l'Apocalypse par cette femme. Et puis, il y a la prière. Et là, je redonne encore un coup, mais c'est important de prier. On a fait des séminaires, on a été encouragés pour prier, mais il y a des combats qui sont à mener. On n'est pas là dans un monde, on voit l'envers du décor spirituel, on n'est pas là dans un monde tendre. Et on ne va pas prendre les armes ou défendre des idées parce qu'elles sont meilleures, parce qu'on est dans des idées chrétiennes. Non, simplement, on va prendre les armes de la prière, parce qu'il y a un combat spirituel, parce que nous sommes dans un enjeu qui est crucial pour ce monde et qui est crucial pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur qui lui est venu mourir sur la croix à notre place. Alors je veux vous bouger encore ce matin. Le Seigneur veut nous bouger. On a des réunions de prière, on n'a qu'une par mois ou deux par mois. Il en faudrait beaucoup plus les enjeux qu'il y a. Mais laissons-nous peu à peu. Soyons fidèles déjà à ces petites choses que Dieu nous donne. On a une réunion de prière mercredi. Je vous invite encore à venir. Il y aura au-delà de ça, mais voilà. Je trouve que c'est important, cette prière. Et sans la prière, notre foi, elle peut être que défaillante, parce que à quoi on s'accroche? Alors voici maintenant le moment de partager cette fraction du pain. C'est aussi un moment fort, parce que c'est cette fraction du pain, c'est ce pain, ce vin, ce repas que Dieu a instauré. C'est un signe aussi de témoignage que l'on peut rendre au-delà de nos yeux, mais à tout ce monde spirituel qui nous observe. Un signe où on vient encore proclamer, où on vient témoigner que Christ est plus que vainqueur. Il est plus que vainqueur dans ce monde, il est plus que vainqueur dans nos vies. Alors, on est témoin de ses bontés, de toutes ses grâces, cette vie en abondance que Dieu a en réserve pour nous et qu'il veut pour nous. Il veut nous mener dans ses verts pâturages. C'est quelque chose de chouette, de vivant. Saisissons cette occasion de le vivre ensemble, d'avancer ensemble et de persévérer dans tous ces quatre piliers que la parole nous enseigne. Alors je vous propose de distribuer ce pain et ce vin, de prendre vraiment ce repas comme cet engagement aussi spirituel, de dire c'est physique, c'est du pain, c'est jus de raisin. Mais c'est quelque chose qui est fort, c'est un témoignage que je veux rendre aussi spirituellement. Alors je vais demander à deux personnes si elles peuvent venir m'aider à distribuer, je prierai. Oui Père, merci de ce que tu as fait vraiment pour nous. Et c'est vrai qu'on est émerveillé de voir que tes plans sont parfaits. De voir malgré les difficultés, malgré l'opposition, malgré un ennemi qui est de plus en plus féroce, toi tu es fidèle. Tu es celui qui est là à nos côtés. Tu es celui qui est inlassablement vient nous secourir. Et c'est beau de pouvoir se rappeler cela. Et c'est pour ça que nous voulons encore ce matin prendre un nouvel engagement. Encore faire un pas supplémentaire avec toi pour nous approcher, pour te dire que oui, nous avons envie de vivre à l'abri de tes ailes, de vivre attaché à toi qui es le rocher. Oui, à toi Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce, parce que tu nous as laissé ce signe. Au-delà de ce signe, il y a bien sûr toute ton œuvre à la croix, toute cette ton œuvre que tu as faite aussi quand tu étais là, où là l'ennemi a subi la défaite. Et là, nous faisons que manifester à tout le monde, à tous
esprit qui entend la parole, que nous sommes ici vainqueurs par ton sang. Oui, nous voulons proclamer encore ce matin ta victoire. Et nous sommes heureux de pouvoir partager ainsi ce repas. Boire de ce jus de raisin qui symbolise vraiment ce sang qui a coulé, ce sang qui nous blanchit, ce sang qui fait que pour nous, il n'y a plus aucune condamnation. Pour ceux qui ont donné leur vie en toi, il n'y a plus aucune condamnation. Merci pour ce pain qui symbolise vraiment ton corps. Et nous faisons partie de ce corps. Tu nous as réunis en un pour que nous puissions te louer, nous approcher aussi de toi. Oui, sois loué encore ce matin. Au nom du Seigneur. Amen.
Bonjour. Je vous partage les annonces du programme de la semaine. Tout d'abord, demain, lundi, Femme Club, à 14h, toujours chez Rebecca. Demain soir, le conseil, 19h30. Samedi, le groupe de jeunes. Dimanche, thé café à 9h30. Ah oui, la chorale, oui, j'ai oublié la chorale. Jeudi, la chorale. Et puis, dimanche, donc, thé café et culte à 10h30 ici dans cette salle. Je crois que je n'ai rien oublié ce coup-ci pour les annonces, pour le programme. Sinon, concernant le club d'été, ça avance gentiment, mais ça avance bien. Il reste encore de la place pour un aide et deux moniteurs, c'est juste. Hein. Ouais.
Les places sont chères. Hein.
Les places, voilà, ce sont les dernières, donc attention, il n'y en aura bientôt plus. Sinon, des nouvelles des membres de notre église, on peut penser à Mike. Mike va sortir cette semaine, ça y est, on y arrive, mercredi matin, il sort. Et c'est important, donc, c'est important de penser à lui pour cette sortie. Il s'est senti entouré pendant qu'il était là-bas, il a reçu beaucoup de lettres, il était très content de ce contact, mais c'est encore le temps de continuer de penser à lui, de le soutenir, de l'entourer, peut-être de l'inviter, pourquoi pas. Le retour n'est pas forcément simple, pensons vraiment à lui. Des nouvelles de Guylaine. Guylaine aurait voulu venir ce matin, mais elle n'a pas pu venir, ils sont à la maison. Guylaine est rentrée, elle est fatiguée. Donc, juste pour mémoire, elle était cette semaine à faire des examens. Elle est rentrée, elle revoit le chirurgien mercredi prochain, suite à son opération, qui va probablement pouvoir enlever les agrafes. Mais elle a encore d'autres rendez-vous, elle a encore un rendez-vous mardi pour la suite de ses examens. Donc, encore des allées-venues, pensons aussi bien à eux, qui sont assez fatigués en ce moment. Annelise, qui est parmi nous, est aussi fatiguée. Annelise, on pense à toi. Annelise attend les résultats d'un scanner qu'elle a passé jeudi passé, mais elle est reconnaissante d'avoir plus, ou en tout cas beaucoup moins mal au dos. C'est bien, c'est précieux. Annelise, on continue à te soutenir, à prier pour toi. Des nouvelles d'Abel. Abel est rentré mardi. Donc, suite à ses analyses, il a eu un ajustement de ses médicaments, de son traitement. Ça va un petit peu mieux, mais c'est de loin pas encore ça. Donc, continuons aussi de penser à lui. On peut aussi encore penser à Fernande, qui est parmi nous. C'est vrai que Dieu t'accompagne et qu'il te renouvelle. Et sois vraiment béni malgré ces temps qui ne sont pas faciles suite à ton opération de la main. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose concernant les nouvelles des uns des autres? Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous lever. Je vais vous lire encore deux derniers versets. J'ai eu à cœur de vous lire deux versets et finalement qui sont les versets qui s'enchaînent avec un des derniers versets que Pierre nous a lus. Donc je vous lis deux versets dans 1 Pierre 5, les versets 10 et 11. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, oui, Laurent.
Je m'excuse, vous vous rasseoir, je prends la parole une minute. J'ai laissé passer le moment et puis j'ai quand même envie de vous dire un mot. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère de Pierrick. Pour ceux qui ne me reconnaissent pas, c'est parce que j'ai vieilli. J'ai envie de vous dire quelque chose depuis tout à l'heure, alors je le dis. Il y a un passage dans Jérémie qui dit ceci, que j'aime beaucoup. « Éphraïm est-il pour moi un fils chéri, un enfant choyé ? Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles frémissent en sa faveur. J'aurai une profonde compassion pour lui. » J'aime beaucoup ce passage parce que c'est Dieu qui parle. Et Dieu dit qu'il se souvient de son enfant qu'il a porté dans ses entrailles. Et j'aime bien ce passage parce que Dieu, notre Père, et bien ce passage, c'est une mère. C'est celui qui se souvient de son enfant qu'il a porté. Et quand Jésus rentre dans Jérusalem, il dit, « Jérusalem, combien j'aurais aimé rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins. » Et ça, c'est un beau passage aussi. Alors, je suis un petit peu ému, pour beaucoup de raisons, je vais vous les dire. D'abord, c'est la fête des mères. Et voilà, on a tous une maman différente. Alors moi, j'ai un peu une maman poule, comme vous apprécierez la transition. J'ai un peu une maman poule qui est ici, et voilà. Et je suis content de la voir. Alors ça me rend ému, mais ce qui me rend ému aussi, c'est de vous voir, de voir certains ici, de voir mon cousin, ma cousine que j'aime, et tous ceux que je connais moins, et de savoir qu'on est tous un peu différents. On a pour certains une relation compliquée avec sa mère, et puis certains ne l'ont plus. Et voilà, je pense à cette parole, et je pense que c'est un jour pour guérir. C'est un jour aussi pour qu'on montre notre affection à tous, qu'on le montre à nos parents, et puis aux frères et sœurs qui ont plus la chance d'avoir une maman sur cette terre. Voilà, c'est pas très drôle, hein, mais en fait c'est drôle dans le fond. C'est pas drôle dans le fond, mais c'est fort parce que Dieu nous aime comme ça, comme la mère qui nous a portés. Bonne journée.
Voilà, un partage qui nous vient droit du fond du cœur. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Allez en paix.